With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Allô ?
Allô, Michel ?
Oui.
Salut, c'est Xavier. Je suis désolé de te déranger. Je prépare un épisode sur les variants. Et je ne sais pas comment prononcer le nom du dernier, là, tu sais, Omicron ou Omicron. Et comme tu es notre spécialiste des langues à l'Express, je me disais que tu devais savoir.
Oui, alors je sais, en tout cas, moi j'ai appelé des profs de grec ancien. Mm-hmm. Ils sont formels. Il faut dire Omicron pour une raison simple, expliquée. C'est comme epsilon. Voilà. En grec, quand un mot se termine par on, on prononce on, Omicron. Voilà.
Super, j'ai ma réponse. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée.
Je t'en prie, Xavier. Bonne journée.
Omicron, ok, c'est facile, c'est noté. J'aurais dû lui demander comment on prononce le reste de l'alphabet grec, parce que vous le savez, l'OMS baptise les variants du Covid-19 avec des lettres grecques. On a eu alpha, bêta, delta, maintenant donc Omicron. À ce rythme, on va bientôt arriver à oméga, la dernière lettre, et peut-être devoir choisir un autre alphabet. Est-on condamné à voir émerger des nouveaux variants ad vitam aeternam ? Oui, ça je sais, c'est du latin. La question soulève des enjeux planétaires et elle appelle tellement d'explications qu'on a décidé d'y consacrer deux podcasts. Épisode 1, variants, l'alpha et l'oméga. J'accueille au micro Valentin Ekirch, le monsieur Covid de la rédaction de l'Express. Salut Valentin.
Salut Xavier.
Est-ce que tu as fait du grec, toi, au collège ?
Oui, c'était une expérience douloureuse, j'ai eu 0 de moyenne.
C'est pas grave, nos auditeurs le savent, tu n'es pas un journaliste lambda. Alors promis, j'arrête là pour les blagues sur l'alphabet grec, enfin pour l'instant. Pour nous accompagner dans cet épisode, nous avons aussi fait appel au virologue Bruno Canard. Il est directeur de recherche au CNRS et sa spécialité, c'est la réplication des virus, donc la fabrication des variants. Enfin, lui préfère un autre terme.
On appelle variant, je sais pas, ça fait moins peur peut-être, mais un variant, c'est un mutant.
On va donc parler de mutants. D'abord, Valentin, comment ces mutants ou ces variants se forment-ils ?
Au départ, il y a la souche historique du virus que l'on a identifiée à Wuhan, en Chine. Elle était tout simplement inconnue de notre organisme. Elle ne nous avait jamais infecté auparavant. Et cela veut dire qu'une fois qu'elle pénètre dans notre organisme a quand même des moyens de se défendre. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Et ce système immunitaire va faire pression sur le virus et va l'obliger à se transformer et donc à muter et créer des variants pour contourner ses défenses. Ça fait que quand on est infecté par le coronavirus, il y a en permanence des nouvelles versions du coronavirus qui évoluent dans notre organisme. Et en fait, ça s'appelle tout simplement la sélection naturelle, c'est-à-dire que le plus fort, celui qui est le plus en mesure de contrôler les défenses de notre organisme, va être celui qui va se répliquer le plus.
Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, ce que tu racontes, Valentin, ça ressemble à ce qu'on appelle les jeux de Tower Defense. Vous devez fabriquer des murs et des tours pour défendre votre forteresse contre des vagues d'ennemis. Et c'est l'analogie faite par Bruno Canard.
C'est une bataille constante. C'est au début, le virus ou l'agent infectieux rentre directement et conquiert la place, en fait. Les soldats rentrent dans la citadelle, et ils commencent à tuer tout le monde. Il y a un organisme qui se défend, qui tue ses envahisseurs. Et effectivement, il y a d'autres soldats qui arrivent parce qu'ils connaissent la ligne de défense de la citadelle. Et donc, effectivement, on est dans la phase de course aux armements. Il y a un coup, le virus, il remporte une grande bataille. Et puis, nous, on vaccine ou on fait des anticorps naturels et donc on remporte une autre bataille. Et donc, il change, etc., etc. Cette espèce d'oscillation, on y est en plein dedans.
Dans ces batailles successives, on voit régulièrement apparaître des soldats variants beaucoup plus inquiétants, ceux auxquels on donne un nom, Delta, Omicron. Valentin, J'aimerais comprendre pourquoi cela émerge d'un coup au milieu de tous les variants qui se forment en permanence.
Ceux qui vont émerger, c'est tout simplement ceux qui vont réussir à s'adapter au maximum. Par exemple, le variant Omicron, c'est un variant qui présente sur la protéine Spike, c'est-à-dire la protéine qui lui permet de s'attacher et de pénétrer dans nos cellules, un nombre de mutations que l'on n'avait jamais vu encore auparavant. Et ça, on estime que c'est permis parce que le virus est peut-être resté très longtemps dans l'organisme d'une personne qui a été atteinte par ce qu'on peut qualifier d'un Covid chronique, c'est-à-dire que au lieu des 10 jours ou des 15 jours d'infection durant lesquels on peut être atteint normalement, eh bien il est resté beaucoup plus longtemps, durant des semaines voire des mois. Avec ces infections longues, il a été contraint de s'adapter parce que les défenses immunitaires ont en permanence essayé de combattre ce virus et qui s'est en permanence adapté à cette réponse-là. Et donc, à favoriser des mutations de plus en plus importantes et de plus en plus grandes. Ça, ça le pousse dans ses retranchements et ça provoque une sélection rapide de ce variant qui devient le plus fort, tout simplement.
Dans quel type de population ça peut arriver, ce genre d'incubation de virus ?
Eh bien, on estime que ça arrive chez les populations qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire défaillant et qui fait que le virus reste plus longtemps dans l'organisme. Ce que l'on peut aujourd'hui observer, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a une importante épidémie de VIH, du sida, et ça engendre de l'immunodépression. Et donc, on estime probable que ce variant, l'Omicron, ait émergé au sein justement d'une personne immunodéprimée, peut-être atteinte du VIH.
On a bien compris comment le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, fabrique en continu des variants, qui donnent donc parfois des super variants, mais peut-il le faire à l'infini ?
On arrive à la fin des variants quand le virus a muté en toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles, et qu'en face de lui, il trouve une immunité qui répond à toutes ces combinaisons possibles. Et donc, ce nombre de combinaisons est grand, peut être estimé en laboratoire, et on sait que là, il y a encore de la place pour créer des nouveaux variants, le variant Omicron en étant un exemple frappant. Donc, il y aura encore probablement des variants. Par contre, la question c'est, est-ce qu'il va nous falloir plusieurs alphabets grecs ou que on va avec un seul, on va y arriver. Il y a encore pas mal d'espace pour la variation, mais c'est pas infini.
Ça n'est pas infini, nous dit notre virologue Bruno Canard. C'est déjà une bonne chose. Valentin, est-ce qu'il va falloir attendre que le virus ait épuisé toutes ses combinaisons ?
Eh bien, pas forcément. Le but du virus, tout simplement, c'est de continuer à exister. Pour continuer à exister, il est obligé de se répliquer. Eh bien, l'intérêt d'un virus, c'est donc d'être le plus transmissible possible pour pouvoir se répliquer le plus au sein des individus. Ça peut lui faire perdre une autre caractéristique, qui est sa létalité. On parle de pathogénocité, c'est-à-dire sa capacité à engendrer des maladies. Il peut perdre, en fait, sa capacité à engendrer des maladies tout en étant de plus en plus transmissible. Ça, c'est plutôt un intérêt parce que ça veut dire qu'il peut devenir un petit rhume et, en fait, lui, ça lui permettrait de continuer à circuler et nous, on aurait peut-être le nez qui coule ou un petit peu mal à la gorge, mais ça serait pas bien grave.
Et ça, d'après Bruno Canard, des coronavirus qui ont connu ce destin, il en existe déjà dans le monde.
Il est très, très probable, même pratiquement certain, qu'il y a eu dans le passé, des grosses épidémies de coronavirus qui ont disparu, qui ont été matées, et on retrouve les traces de ces coronavirus de nos jours dans des coronavirus qui sont bénins. Le NL63, le 229E, le OC43, tout ça, c'est des coronavirus saisonniers qui infectent l'homme, qui donnent des rhumes ou des maladies respiratoires qui sont bénignes, qui sont souvent confondues avec des rhumes. On dit j'ai la crève et tout, on ne sait pas si c'est un coronavirus, un rhinovirus. Donc l'histoire du SARS-CoV-2 de la Covid, dans 50 ans, il y aura probablement un virus qui sera la trace du SARS-CoV-2, de la Covid, de ce problème passé, et qui sera devenu endémique. La difficulté, c'est de prévoir quand ça va arriver. Ça peut arriver de manière aléatoire après-demain, comme il peut y avoir encore sélection de variants après variants pendant encore des mois ou quelques années. Mais on ne peut rien dire avec certitude.
Si je résume ce qu'on vient de dire, soit le virus épuise toutes ses combinaisons, soit il produit un variant inoffensif ou presque avec lequel on pourra vivre. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios, Valentin ?
Oui, en fait, l'autre scénario, c'est l'autre facette. C'est-à-dire que le virus devient une sorte de super variant ultra létal qui tue tout le monde. Mais ça, c'est un problème pour lui, puisque s'il tue l'hôte dans lequel il est, il se supprime lui-même. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit, par exemple, aussi contagieux que la rougeole et en même temps extrêmement létal. C'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité au sein de petites communautés, mais à l'échelle planétaire, c'est un scénario assez improbable parce que ça veut dire que tout simplement, ce virus ne se transmet plus autant puisqu'il tue la population dans laquelle il émerge.
Donc, un scénario sombre mais improbable, d'autant que l'homme a des armes pour s'imposer dans cette guerre des variants. Encore faut-il bien les utiliser.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dans l'arsenal contre le Covid-19, il y a une arme dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler et qui est prometteuse contre les variants, à écouter Bruno Canard.
Il faudrait effectivement avoir des médicaments qui vont, eux, frapper le virus de manière indépendante du fait qu'il soit variant ou pas, puisque les variations sont sur la carrosserie externe du virus, sur les protéines d'enveloppe, de spike, etc., etc. Et donc, à l'intérieur, le moteur du virus, lui, il est constant, il varie pas. Donc, si on trouve un médicament qui marche sur un virus d'origine de 2019-2020, il va être actif sur les différents variants.
Valentin, est-ce qu'on est proche d'avoir ces médicaments?
Cela, pas tout à fait encore. Ils sont encore au stade de recherche. Mais il y a deux antiviraux qui existent. Les antiviraux, ils luttent contre le virus. Ils ont été développés par Merck et Pfizer. Et leur intérêt à eux, c'est qu'ils ont un mode d'action qui ne cible pas la protéine spike, mais d'autres protéines qui sont beaucoup moins susceptibles de muter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les industriels ont bon espoir qu'ils restent efficaces face à un nouveau variant, et notamment face au variant Omicron.
Il y a une autre arme que l'humanité a fabriquée en un temps record, présenté comme fatal pour la pandémie, c'est le vaccin à ARN messager. Est-ce qu'il est efficace contre les variants?
Ces vaccins, ils ont été conçus sur la souche historique du virus, c'est-à-dire pas contre celle qui circule actuellement. Mais malgré tout, on se rend compte qu'ils restent très efficaces. Ils restent très efficaces contre les formes graves de la maladie. Ils empêchent aujourd'hui de finir à l'hôpital et de mourir du Covid. Et ça, quel que soit le variant aujourd'hui. On peut dire quand même quelque chose, c'est que les variants qui sont arrivés, que ça soit le variant Alpha ou le variant Delta, qui sont des variants qui sont très contagieux, ont un petit peu amenuisé la protection des vaccins contre l'infection. C'est-à-dire le fait qu'on puisse tout simplement être de nouveau positif après avoir été vacciné. Ça, on l'observe aujourd'hui avec notamment la remontée des cas, même chez les gens vaccinés.
Si je te suis, ça veut dire que si on veut empêcher le virus à nouveau de circuler, il faudrait adapter les vaccins aux variants.
C'est ça. Si on veut utiliser le vaccin comme véritablement une mesure de contrôle de l'épidémie et d'empêcher les nouveaux cas, eh ben on peut avoir deux solutions. Soit c'est ce qu'on fait actuellement, on utilise la troisième dose qui permet d'offrir une meilleure protection contre l'infection, plus importante encore après la troisième dose qu'après les deux premières doses initiales. Soit, eh bien, on utilise carrément l'autre technique qui est celle d'adapter le vaccin aux variants. Et ça, effectivement, c'est possible. Avec les vaccins ARN messagers, c'est assez simple. Il suffit de recoder l'ARN pour qu'il cible spécifiquement les mutations observées sur le dernier variant. Et ça, ça permettrait d'être plus efficace contre ce virus et donc d'être plus efficace contre l'infection, ce qui veut dire qu'on transmettrait probablement beaucoup moins le virus.
Le procédé de fabrication est rapide. Pour un laboratoire d'un fabricant industriel de vaccins, les choses peuvent aller jusqu'à 6 semaines.
Mais si c'est si facile, pourquoi les laboratoires n'ont pas adapté leurs vaccins aux variants, notamment au Delta, qui est devenu majoritaire?
Eh bien, ça, c'est une question de santé publique, d'industriel, et puis de la manière dont on utilise le vaccin. On s'est rendu compte ces derniers temps qu'effectivement, on n'utilisait pas forcément le vaccin pour lutter contre l'infection, mais bien pour protéger l'hôpital de la saturation. Et là-dessus, le vaccin est toujours efficace. Donc les industriels, autant que les États, n'ont pas cherché tout de suite à adapter ces vaccins à des variants dont, à l'époque, on ne savait pas forcément combien de temps ils allaient rester majoritaires. Ces derniers temps, on a vu que le Delta s'était imposé véritablement comme le plus transmissible et donc le variant le plus important sur la planète. On peut imaginer qu'on aurait pu l'adapter au Delta. C'est pas le choix qui a été fait. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a 75% de la population française qui est totalement vaccinée, et pourtant on est à plusieurs dizaines de milliers de cas quotidiens par jour, de nouveaux cas. Donc ça, effectivement, c'est un élément qui nous pousse aujourd'hui à se dire, ah bah oui, mais est-ce qu'il faut pas adapter ce vaccin à ce variant qui, malgré tout, arrive à passer la barrière du vaccin.
Pour éviter que le virus ne fabrique des variants, il faut l'empêcher de circuler, on a compris, donc lui laisser le moins d'espace possible. Ça, Valentin, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il trouve de réservoir où se propager, comme on l'a vu, par exemple, en Afrique du Sud.
C'est ça. En France et en Europe, on peut avoir la sensation d'être protégé par une couverture vaccinale qui est assez importante, et on voit bien, on a pu relâcher les gestes barrières dans un certain temps, on a passé un été sympathique, mais en fait, on oublie qu'une bonne partie du monde n'est pas vaccinée, et là-bas, le virus circule, et donc il est en mesure de créer des variants qui peut-être peuvent revenir sur le territoire français et contourner les défenses que l'on a construites à travers cette couverture vaccinale importante. Et donc, cela veut dire qu'il faut effectivement vacciner la totalité de la planète pour espérer ne pas voir de variants de nouveau émerger.
Le monde entier vacciné, on en est encore loin, Valentin. Écoutez ces chiffres édifiants. À peine plus de 3% des habitants des pays les plus pauvres ont reçu au moins une dose. Par comparaison, les pays les plus riches, eux, ont vacciné en moyenne plus de 60% de leur population. C'est donc un défi énorme que l'humanité va devoir relever si elle veut se débarrasser du Covid-19. Comment vacciner le monde ? On vous explique ça demain dans le deuxième épisode. Ce sera toujours avec Valentin et Kirsch qui ne bougera pas d'un iota. Et oui, il fallait bien que je finisse sur une lettre grecque. Pour être sûr de ne pas rater la suite, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Lison Verrier, Charles Voisin. Et je remercie pour sa participation Michel Feltin-Palas, notre expert des langues à l'Express. À demain.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.